Au Capi Service, c'est la deuxième partie de ce magazine de la vie au quotidien. Merci de votre fidélité à cette émission. Merci à vous qui venez de nous rejoindre sous www.radiocapi.net. Eh bien, de quoi allons-nous parler dans cette deuxième partie de l'émission? Nous allons parler de la taxe sur l'abattage des espèces protégées en République démocratique du Congo. Quelle est son opportunité? Eh bien, nous allons recevoir tout à l'heure le professeur Amundala Drazo, expert en faune sauvage, maître Félix Credo, président du conseil d'administration de l'ONG Juriste pour l'environnement au Congo, Jurek, sera de la partie. Vous voulez participer, vous avez des questions et préoccupations, eh bien, composez le 081-890-63-94, écrivez-nous. Également à service@radiocapi.net, vous pouvez poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Capi Service. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation au lieu de Linyangassa. À la mise en onde au micro, Jody Daniel Kachama.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission au Capi Service. Le gouvernement congolais, au travers d'un arrêté interministériel, avait institué en juillet 2020 des taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de l'Environnement et Développement Durable en matière de faune et flore. Cet arrêté autorise l'abattage de certaines espèces protégées contre paiement de taxes pour les experts. Cela remet en cause les engagements pris par la RDC au niveau international et régional dans le cadre de la protection de la faune sauvage. Certaines organisations de la société civile envisagent de porter plainte contre le gouvernement congolais par rapport à cela. Alors, quelle est l'opportunité de cet arrêté interministériel signé par le ministère des Finances et le ministère de l'Environnement et développement durable de la République démocratique du Congo? Eh bien, nous allons en parler tout à l'heure dans cette émission des questions et préoccupations. Vous pouvez déjà nous appeler au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Nous aurons nos invités tout à l'heure dans cette émission. Eh bien, vous pouvez participer, comme je l'ai dit. En attendant qu'ils soient en ligne, appelez déjà au 081-890-63-94.
Africa liberté, Kobongisi, ni inisi. Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Taxe sur l'abattage des espèces protégées en RDC, quelle est l'opportunité de cela? Nous avons en ligne le professeur Amundala Drazo. Bonjour professeur.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous êtes expert en faune sauvage, vous intervenez depuis l'université de Kisangani. Le gouvernement congolais, vous le savez, au travers d'un arrêté interministériel, avait institué en juillet 2020 une taxe sur l'abattage des animaux, l'abattage de certaines espèces protégées. Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous, en tant qu'expert, pouvez dire par rapport à cela?
Excusez-moi, je suis cet arrêté. Franchement, j'ai été un peu scandalisé parce que je me suis dit, avant de prendre les gens des décisions, on doit s'appuyer sur des données scientifiques. Et je ne sais pas si c'est sur base de quelles données scientifiques le ministre s'était appuyé pour prendre ce type de décision. Or, nous savons aujourd'hui que notre pays, c'est l'un des pays au monde qui fait encore la fierté avec toutes les espèces que nous avons. En tout cas, à mon avis, ce type de décision n'est pas vraiment une décision encouragée. D'ailleurs, je dirais même que c'est un crime environnemental. Parce que comment voulez-vous prendre un arrêté comme celui-là, parce que on ne connaît même pas le nombre d'individus de ces différentes espèces. Comment voulez-vous qu'on autorise l'abattage de ces différents groupes? Si quelqu'un fait ça, c'est probablement quelqu'un qui ne connaît pas comment fonctionnent les écosystèmes, quel est le rôle de ces différentes espèces. Si on les a classées sur l'annexe 1 des CITES, c'est justement pour arriver à protéger ces différents groupes dont le nombre est en train de décroître chaque jour. Mais comment voulez-vous qu'on puisse faire le contraire de ce dont beaucoup de gens sont en train de se battre? Je suis totalement en désaccord par rapport à ces types de décisions et de cet arrêté. Donc, à mon avis, c'est vraiment insensé, quoi.
Bien. Alors, quelles sont les espèces protégées des animaux que nous avons à RDC?
Il y a plusieurs espèces et la liste continue à croître. Nous avons d'abord les éléphants. Nous avons les gorilles, que ce soit les gorilles des montagnes ou des plaines. Nous avons les okapis. Nous avons aujourd'hui le pangolais géant. Nous avons dans les groupes des oiseaux le pas congolais. La liste est vraiment assez longue aujourd'hui, mais les études aujourd'hui montrent qu'il y a beaucoup d'autres espèces qui pourraient aussi rentrer dans ces groupes d'espèces protégées, étant donné la pression qu'on exerce sur ces groupes-là, mais également la destruction de l'habitat dans lequel ces différentes espèces vivent.
Donc, si on comprend l'esprit de cet arrêté, donc on peut abattre un éléphant et on paye des taxes pour ça.
À mon avis, c'est totalement, c'est un crime environnemental que de pouvoir sortir ce type de décret, parce que ça ne nous avance à rien. L'autre aspect de la chose, c'est que dans d'autres pays organisés, il y a plutôt on développe l'écotourisme et les gens viennent juste regarder les individus et on paie de l'argent. Pourquoi chez nous on devait prendre l'autre facette que de tuer? Mais c'est pas possible. Je sais pas sur base de quoi nos dirigeants prennent parfois de décisions. Et donc, à mon avis, c'est totalement insensé. Voilà.
Voilà, c'est une décision qui. Il y a d'ailleurs une organisation qui compte porter plainte contre le gouvernement à cause de cela.
Nous allons vraiment soutenir cette organisation parce que, à mon avis, ça c'est véritablement un crime environnemental et c'est vraiment un braconnier, quoi. C'est vraiment un braconnier. Comment voulez-vous porter un arrêté comme celui-là? Je comprends pas. Ça va pas. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit pouvoir prendre ce type d'arrêté. Ça ne nous avance pas. Au contraire, nous nous reculons vraiment. Dans d'autres pays au monde, il y a des gens qui font l'élevage de ces différents animaux sauvages. C'est ce qu'on appelle le game farming. Il y en a qui font les game ranching aussi. Mais eux, ils peuvent vendre parce qu'ils paient les taxes. Ils font la domestication de ces différents animaux sauvages. Mais les animaux qui sont en milieu naturel, d'abord, il n'y a jamais qui pour essayer de connaître le nombre de ces animaux-là. Qui est-ce que c'est celui qui a porté cet arrêté peut nous dire combien d'éléphants nous avons aujourd'hui avec précision et savoir combien nous allons abattre, etc. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable.
Voilà. Et pourtant, il semble que la RDC a ratifié aux instruments au niveau international par rapport à la protection de l'environnement, de la faune et de la flore.
C'est assez contradictoire, franchement. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire, on dit, bon, voilà, nous allons protéger les espèces, et nous allons augmenter l'aire de conservation de ces espèces. Et de l'autre côté, quelqu'un débat pour dire, il faut commencer à les abattre. Mais c'est incroyable, tout simplement, c'est incroyable. Je comprends pas comment ce genre de choses peuvent se faire, en tout cas.
Voilà, mais c'est depuis 2020 que cet arrêté a été pris. Pourquoi les experts ainsi que la justice civile n'avaient pas réagi tout de suite?
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'arrêtés qui sont comme ça pris, mais ils sont jamais vulgarisés. Et vous devez savoir que beaucoup de gens pensent que la RDC, c'est Kinshasa. C'est complètement faux. Il y a des contrées à travers les pays où les gens vivent carrément comme s'ils étaient au XVIIe siècle. L'Internet, on ne connaît pas, etc. Toutes ces informations ne circulent pas. Vous voyez ? Et donc, je pense que ça, c'est une des raisons. Mais aussi, en tout cas, pour moi, la population ne peut jamais accepter ce genre de choses. On peut bien prendre ce type d'arrêté, mais arriver à l'exécuter, je crois que ce sera totalement impossible. Et à mon sens, c'est vraiment... je ne sais pas comment je peux qualifier. En tout cas, pour moi, un homme comme celui-là, qui qu'il soit, c'est un la raison de faire. Et donc, il doit être suivi et arrêté pour ça.
Bien, là, c'était un arrêté signé par le ministre Claude Nyamugabo. On va donner la parole à un auditeur, Bahati de Bounia. Bonjour.
Bahati de Bounia, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Bahati?
Vraiment, avant tout, je salue tous les auditeurs de la radio Capi, mais je suis notre victime.
Veuillez vous éloigner de votre radio parce que là, je suis en train de m'entendre là-bas à Bounia. Veuillez vous éloigner de la radio pour éviter les feedbacks à l'antenne.
Oui, oui, je me suis déjà éloigné.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cet arrêté sur l'abattage, la taxe d'abattage, la taxe sur l'abattage des espèces protégées?
Vraiment, l'arrêté sur l'abattage a vraiment connu des magouilles terribles au sein de ces ministères parce que malgré les agents chargés de protection de faune flore, il y a eu toujours des tripatouages qui se font dans ces ministères. Vous allez comprendre que aujourd'hui il y a des gardiens qui gardent ces animaux. Mais lorsque quelqu'un qui a l'argent arrive chez eux, puis il leur donne l'argent, ils peuvent facilement tuer cet animal et puis ils peuvent en battre sans problème. Ce sont là des magouilles. Et puis, les problèmes que connaît aujourd'hui la RDC, c'est un problème vraiment très capital. Pour ça, notre gouvernement doit être vraiment vigilant parce que il y a des mafias dans tout service possible. Et qu'est-ce que notre invité peut nous dire concernant de ces problèmes que notre pays connaît aujourd'hui? Parce que vraiment, si le service de contrôle ne sont pas vigilants, imaginez, nous n'allons pas évoluer sur tout plat, monsieur le journaliste. C'est ça ma question.
Bien, merci Bahati depuis Bounia. Professeur Amoundala, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Je dois dire que notre ami a raison. Il y a, on discutait d'ailleurs avec les collègues ici pour dire que malheureusement chez nous, les dirigeants sont nommés sur base d'appartenance politique, etc. Je suis pas contre ça, mais je pense que dans le structure, on devrait voir qui peut bien faire tel ou tel travail. Mais figurez-vous, quelqu'un qui doit prendre un arrêté comme celui-là, ça va pas. Donc, mon ami Debouni a pleinement raison, ce n'est pas normal. Il y a donc beaucoup de magouilles, beaucoup de choses qui se passent, et on ne regarde que l'argent rapide. Mais il y a beaucoup de possibilités de gagner de l'argent autour de ces animaux, au lieu de les abattre. Mmh. J'ai dit, il faut réorganiser l'écotourisme. Et l'écotourisme donne beaucoup d'argent. Il y a des preuves à travers le monde. Le Kenya, par exemple, une proportion vraiment importante de son budget provient de l'écotourisme. Et donc, nous pouvons organiser. Nous avons des atouts ici chez nous. C'est différentes espèces qui existent chez nous. Mais c'est question d'organiser les choses, et on a la possibilité d'accroître notre budget national plutôt que de les abattre. C'est comme, vraiment, c'est un comportement, je ne sais pas comment je peux qualifier ça. C'est comme dans certains coins où les gens ne réfléchissent pas sur des arbres où vous avez des chimies. Cette année-là, donc, vous commencez à abattre les arbres pour ramasser les chimies. Et l'année suivante, qu'est-ce que vous faites?
Bien, l'année suivante, qu'est-ce qui sera fait? On va accueillir Maître Félix Credo et Lila Kako, voilà. Maître Félix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du conseil d'administration de l'ONG Juriste pour l'environnement au Congo.
Exact.
JUREC. Et d'ailleurs, vous préparez une plainte contre le gouvernement congolais par rapport à cette question, à cette taxe sur l'abattage des espèces protégées. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, merci beaucoup. Je salue aussi tous les auditeurs qui nous suivent sur toute l'étendue de la République. La question de l'arrêté numéro 006 qui a été pris par le ministre de l'Environnement et du Développement Durable ensemble avec le ministre des Finances.
C'est Léa Lagouli et Claude Nyamugabo.
Voilà, en juillet 2020, défraie aujourd'hui la chronique. D'autant plus que ces textes violent des dispositions à la fois de la réglementation nationale et internationale, mais aussi certains engagements que le pays a pris au niveau international, notamment pour préserver des espèces de la faune et de la flore qui sont en voie de disparition. Alors, ces textes qui a été pris a violé certains principes. Premièrement, d'abord, en ce que, quand vous lisez les corpus des textes, l'autorité qui a pris a méprisé en fait quelques principes qui gouvernent telle ou telle autre espèce protégée, que ce soit de la faune ou de la flore, alors qu'en réalité, selon les engagements que les pays a pris au niveau international à travers la convention de Washington, dite convention CITES, l'abattage des espèces qui sont considérées en annexe comme totalement protégées est soumis à des restrictions vraiment strictes au niveau de la législation internationale et nationale. Et si vous lisez la législation nationale, que ce soit la loi sur la chasse de 82 ou la loi relative à la conservation, il y a des restrictions qui sont données. Et en analysant le texte de l'arrêté, il se dégage en fait un certain flou. Lorsque le ministre prend l'arrêté tout en renvoyant seulement à la législation, on ne sait pas si ces permis d'abattage touchent l'abattage des espèces protégées pour des raisons d'ordre scientifique ou pour des raisons d'ordre économique ou commercial. Alors que ces flous-là permettra à ce que l'abattage soit réalisé pour des raisons d'ordre économique, alors qu'en réalité, aujourd'hui, les espèces de la faune et de la flore sauvage sont soumises à des restrictions strictes en termes de l'abattage.
C'est par exemple, parlons des éléphants, il y a certains coins, Malembankoulou, ou dans le Bandundu, où les éléphants menacent certains villages, ils détruisent les champs, et ils menacent la population et tuent même. Est-ce que, peut-être ça peut être pour des conditions sécuritaires, on peut arriver à les abattre. Mais vous dites que l'arrêté n'a pas donné des précisions par rapport à ça.
Alors, l'arrêté n'a pas donné de précisions, alors que l'arrêté a abrogé toutes les dispositions antérieures contraires. Et si vous essayez de voir des dispositions antérieures contraires, déjà en 2006, il y a eu un arrêté similaire, mais qui a été beaucoup plus précis. cet arrêté a donné la possibilité d'avoir un permis d'abattage, effectivement, des espèces de la faune et de la flore protégées, mais spécifiquement pour des raisons d'ordre scientifique. Et donc, que ce soit les textes internationaux ou les textes nationaux, sont unanimes que pour des raisons d'ordre scientifique, c'est-à-dire des raisons de recherche, de recherche scientifique, par exemple, l'autorité peut donner une dérogation particulière en accordant ce qu'on appelle des permis spéciaux pour permettre à ce que des recherches soient menées. Et cela, c'est fait dans les règles et cela est reconnu au niveau international. Alors que l'arrêté de 2020 est resté dans ce flou-là, n'a pas donné cette limitation. Et nous pensons que le fait que les textes n'aient pas donné cette clarification, il ouvre en fait voie à un braconnage parce que en fait devant ce flou, toute personne intéressée peut aujourd'hui saisir l'autorité pour obtenir un permis pour abattre des espèces qui sont totalement protégées par la loi.
Et là, moyennant paiement de combien tout cela est déterminé?
Tout cela est déterminé par les textes. Et si vous essayez de voir les textes, même les chiffres qui sont présentés là, vous voyez que non, c'est une façon de brader en fait tout ce que nous avons.
C'est combien pour abattre un éléphant, par exemple?
Par exemple, pour abattre un éléphant, lorsque nous regardons dans l'annexe A de l'arrêté, l'éléphant, par exemple, de forêt, on parle de 1145 dollars pour l'abattage et pour la capture et pour l'abattage, on parle de 2885 ainsi de suite. Donc en fait nous ne pouvons pas brader en fait nos ressources de la sorte. Donc le premier grief par rapport à cet arrêté, c'est justement ce flou là, ce manque de précision. Mmh. Si les textes avaient précisé comme l'arrêté de 2006 que l'on peut avoir le permis spécial d'abattage spécifiquement
pour
des raisons scientifiques, là, il y aurait pas de préjudice. Mais quand les textes ne précisent pas, alors ça ouvre à l'arbitraire, ça donne champ libre à tous ceux qui veulent abattre des espèces, alors que aujourd'hui les efforts sont maximisés au niveau international, au niveau interne pour protéger ces espèces-là qui ne se retrouvent pas dans plusieurs pays au monde.
Alors, où étiez-vous, maître, depuis 2020? Aujourd'hui, on est en 2021, juillet, août 2021. Pourquoi vous vous réveillez si tard alors que l'arrêté était déjà là depuis?
Oui, en fait, ça c'est vrai, l'arrêté était là, pris en 2020 au juillet, mais il a été publié au journal officiel au mois de janvier 2021. Mais publié, mais pas rendu tellement accessible. Donc, c'est lorsque l'information nous est arrivée, après analyse, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'hiatus. Au-delà même de cela, il y a le fait que l'arrêté donne le pouvoir à la direction de conservation de la nature du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, tel que cela est prévu, je crois, aux articles 1er et 4, pour 1er et 3, pour ordonnancer, constater, liquider. Alors qu'en réalité, dans les mêmes secteurs de l'environnement, il y a des textes juridiques, en commençant par la loi, qui soumet toutes ces autorisations à un organe de gestion qui est créé par la loi sur la conservation, mais aussi la direction de la conservation de la nature, dont l'arrêté donne le pouvoir, a perdu en fait cette place-là de l'organe de gestion. Elle est maintenant autorité scientifique. Ce qui veut dire que lorsqu'on analyse cet arrêté, c'est que l'autorité qui a pris la première décision de transférer l'organe de gestion du ministère de l'Environnement à travers la direction de conservation de la nature vers l'ICCN a encore donné à ce même organe de gestion le pouvoir pour octroyer. Donc en fait, l'organe de gestion devient maintenant jugé parti et en violation de principes administratifs de la spécialité.
Bien, on va accueillir Robert de Mahagui. Bonjour Robert. Désolé, Robert n'est plus en ligne. Professeur Amunda Ladrazo, vous avez la parole.
Oui. Oui, merci beaucoup. Je remercie beaucoup le président du conseil d'administration de ONG.
De l'ONG Juriste pour l'Environnement au Congo.
Juriste pour l'Environnement. Je le remercie sincèrement pour son intervention parce que ce qu'il dit est véritablement fondé. Et moi, je dis toujours, les décisions ou les arrêtés que nos dirigeants prennent devaient s'appuyer sur des données scientifiques. Ça devait s'appuyer sur des données scientifiques. Or, le pays a souscrit à plusieurs conventions. On a ratifié plusieurs conventions internationales à travers les conventions internationales, etc. Pour que notre pays, avec la méga biodiversité qu'il détient, puisse être vraiment le réservoir où ils gardent véritablement les différentes espèces qui se trouvent dans notre pays. Mais des décisions comme ça sont des décisions qui viennent vraiment raser tous les efforts réalisés depuis des décennies. Ça, ça ne marche pas. À mon avis, c'est vraiment des arrêtés qu'il faut vraiment enlever je ne sais pas quel terme utiliser, pour que dans l'avenir, des choses comme ça ne puissent plus arriver. Et donc, des décisions, des arrêtés doivent être basés sur des résultats de recherche qui présentent aux autorités un certain nombre de réalités du pays avant de pouvoir prendre ce type de décision. Mais autrement, on va vraiment raser tous les efforts. Ça signifie qu'aujourd'hui, les parcs nationaux et tous les efforts qui sont faits autour des parcs nationaux doivent être annulés. Et ça, ça ne marche pas. Nous avons toujours dit qu'il y a moyen de diversifier l'économie du pays en faisant ce que nous venons de dire ici, l'écotourisme. Vous avez soulevé une question par rapport aux ravages que les éléphants causent à travers les pays. Mais ce sont des choses qu'on peut gérer. Il y a des solutions écologiques qu'on peut pouvoir proposer pour que ces gens, des choses n'arrivent pas. Mais ces types de décisions ne sont pas encouragées. Je soutiens vraiment le président du conseil d'administration de l'ONG là pour sa prise de position et aussi l'effet de tenter une action judiciaire contre ces gens d'autorité qui bradent pratiquement la biodiversité de notre pays. Et donc ça c'est inacceptable parce que les conséquences seront vraiment, vraiment énormes sur l'environnement de notre pays. Parce que on ne connaît pas le rôle, par exemple, considérons l'éléphant, le rôle écologique que l'éléphant joue dans la forêt, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et donc, si on doit commencer à abattre ces animaux, donc demain, c'est toute l'humanité qui va périr, quoi. Ça aura des conséquences énormes sur l'environnement.
Bien, on va accueillir Robert de Maragui. Bonjour, Robert.
Bonjour, Radio Capi.
Quelle est votre question?
Oui, je pose seulement une question pour ces gens-là qui un peu donnent les arrêtés, pêle-mêle, ne voient pas. Je soutiens aussi les propos du professeur à partir de Kisangani. Vraiment, félicitations avec tout ce qu'il est en train de dire. Alors, il faudrait prendre pour ces gens-là qui donnent les arrêtés pêle-mêle là, juste pour un peu connaître que non, l'importance de tous ces faunes et les flores là, c'est vraiment pour nos avenirs et la génération future. Si ces gens-là sont des environnementalistes, qu'ils puissent ne fût-ce que voir tout problème qui arrive, les gens du pays étranger arrivent tantôt par-ci par-là, juste pour ne fût-ce que profiter leurs intérêts privés. Alors, nous, nos enfants, verront quoi dans l'environnement? Ça fait triste pour nous, les Congolais.
Bien, merci d'avoir appelé depuis Maragui. Robert, nous, on va accueillir un autre auditeur qui est en ligne. Bon, il s'appelle Gérard, voilà, il est à Djougou. Bonjour Gérard.
Ok, merci bien, je vous écoute.
Quelle est votre question par rapport à cette taxe sur l'abattage des espèces protégées?
En tout cas, pour moi, c'est vraiment étonnant, puisque pour installer le ministère actuel, il y avait beaucoup de sujets qu'on avait fait, on avait examiné beaucoup. Alors, je ne sais pas comment le ministre peut quand même décider de telle et prendre de telles décisions et si c'est depuis quand. Et ça, nous, à notre niveau, il y a ceci. Nous apprenons que les ministres travaillent en collège malgré leur gestion de leur ministère. Alors, cette décision avait-elle été débattue dans la réunion ministérielle? Si oui, c'était à quelle date et quelle a été la motivation? Et encore, quand les ministres ont été sélectionnés sous beaucoup d'examens, là, nous pensons quand même que c'était des experts. Alors, je ne sais pas si les ministres peut-être nous citer un des pays où on a déjà pris de telles décisions, puisque pour nous, cette décision est très grave. Un seul pays dans le monde. Et puis, à troisième lieu, pour nous, la population de Djougou et de Irumu, on peut peut-être aussi sous-attendre que peut-être il y aurait aussi de telles autorisations pour exterminer une ethnie ou un groupe de gens. Et puisque ce qui se passe, c'est vraiment incompréhensible. Quand les gens sont bien exterminés, mais le gouvernement voit ça, malgré des réactions qui ne sont pas à mesure, donc au niveau des réactions qu'on pouvait porter. C'est surtout ça. Alors, je ne sais pas si nous sommes dirigés par des vrais nationaux ou bien comment on peut dire ça.
Bien. Vraiment, c'est étonnant. Bien, merci. Merci Gérard depuis Ndjougou. Maître Félix, il dit que avant qu'une décision ne soit prise, ça doit être débattu en Conseil des ministres. Alors il se demande si c'était le cas avec cette taxe sur la bataille des espèces protégées.
Très bien. Merci beaucoup. Merci à l'auditeur et je remercie aussi tous les auditeurs et le professeur. Je suis très content parce que je sens que la population a vraiment un grand intérêt sur des questions de la biodiversité parce qu'en fait, l'avenir, comme a dit l'un des auditeurs, l'avenir de nos enfants, des générations futures, est aussi basé sur la biodiversité parce qu'on le voit seulement sous l'angle écologique, mais aussi il y a aussi l'aspect économique et financier. On a parlé de l'écotourisme, ainsi de suite. Alors, pour ce qui est de l'acte en tant que tel et même du ministre, faut faire les distinguos entre les compétences reconnues par un ministre au niveau de la Constitution et la procédure même de prendre des actes. En fait, la Constitution reconnaît à chaque ministre la compétence de la responsabilité dans son secteur. L'article 96 dit que le ministre est responsable de son secteur et il statue par voie d'arrêté. Donc, sur le plan constitutionnel, le ministre est compétent et était compétent pour prendre cet arrêté. On ne le lui refuse pas.
C'est un arrêté interministériel. Entre le ministère des Finances et le ministère de l'Environnement.
Pourquoi interministériel? Parce que en fait, il y a l'aspect des droits, des taxes et des redevances qui doivent être perçues et la responsabilité en tant que telle revient au ministre de Finances. Donc en fait, les deux sont juridiquement et légalement compétents pour prendre ces actes-là. On n'en disconvient pas. Mais le problème se pose plutôt, non seulement au niveau du contenu, mais surtout au niveau de la procédure. En fait, il est de pratique et de bonne pratique au secteur de l'environnement et des forêts qu'avant de prendre un acte, l'approche qui est utilisée, c'est une approche participative dirigée où il y a un draft de texte qui est prévu, il y a tout un processus qui permet à ce que les textes, le projet de texte soit conçu, qu'il soit présenté auprès des acteurs, qu'il y ait des discussions. C'est là que je salue la prise de position du professeur qui parlait de la mise de côté des chercheurs. Parce qu'en fait, s'il y a un projet qui est préparé, toutes les parties prenantes se retrouvent, discutent autour de ces textes-là. Il y a toute une commission qui est mise en place par un arrêté du ministre qui a mis en place une commission de validation des textes. Et après cette validation, le texte est renvoyé au secrétaire général pour le transmettre au niveau du ministre. Mais si vous lisez les textes, vous vous rendez compte que le texte n'a pas été présenté sous proposition du secrétaire général, mais c'est plutôt sur base de l'urgence de la nécessité. Nous ne savons pas quelle a été l'urgence de la nécessité. Donc c'est en fait ça. Et c'est à juste titre que cette absence de consensus, de concertation des parties prenantes qui, à juste titre, a conduit à ces illégalités, ces irrégularités. Et je pense qu'il est important de voir comment passer à l'annulation de cet arrêté. Et nous saluons la vice-première ministre qui a déjà dit clairement qu'elle est en train d'analyser froidement les textes de l'arrêté.
Vous l'avez approché par rapport à ça? Ou les organisations de la société civile?
Les organisations de la société civile ont approché la vice-première ministre et là, elle a démontré sa coopération, sa collaboration. Elle a déclaré qu'elle est en train d'analyser avec son cabinet, ses experts, de manière très froide l'arrêté. Nous pensons que c'est une très bonne option de voir comment passer par son abrogation pour que les choses soient revenues au pristine état afin de maximiser les efforts qui sont menés jusqu'à présent pour la conservation de la riche biodiversité de la RDC.
Et on peut dire qu'entre-temps, donc, avec cet arrêté, tous les braconniers, ils vont se frotter les mains. On va abattre ces espèces sans problème.
Oui, mais enfin, parce que l'arrêté doit...
On est couvert par
un texte. Comme ça, nous avons parlé de la légalisation de braconnage. Il y a un texte qui couvre, qui justifie en fait le fait que l'on puisse abattre des espèces qui sont totalement protégées.
Avec des montants 1500.
Avec des montants
2000
qui sont très minimes. Alors qu'il y a beaucoup...
Et vous abattez un éléphant.
Avec des efforts, des millions qui sont déversés dans la conservation. Et ce sera une façon de mietter tous les efforts qui sont consentis depuis très longtemps par l'ensemble des parties prenantes. Il y a des éco-gardes qui perdent leur vie pour ça et je pense qu'il est important que les autorités prennent des mesures assez fortes par rapport à cela. Nous savons qu'il y a un principe de continuité de l'État, mais la continuité doit s'inscrire dans la légalité, dans la régularité pour préserver les espèces et surtout respecter les engagements que l'RDC a pris au niveau international.
On va accueillir Albert Cotolo. Bonjour Albert.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, Albert?
Vraiment, monsieur, j'ai dit, je vous félicite souvent pour m'associer dans ce débat. Je parle présentement dans cette émission comme un environnementaliste de la formation bien formée à l'université. Pour moi, vraiment, je regrette que chez nous, à l'environnement, nous avons un grand problème. Parce que chez nous, à l'environnement, notre domaine y est vraiment instrumentalisé par tout le monde, quel que soit de tels domaines, d'autres domaines ou comment. Moi, je n'ai pas vu un jour qu'on a nommé un magistrat ou un procureur général de la République dans un parquet quelconque qui est un environnementaliste. On nomme souvent le juriste, on nomme aussi les avocats et les magistrats. Mais chez nous, en environnement, nous avons, durant mon parcours à l'université, j'ai reçu les différents cours. Et parmi les cours, là, je peux vous citer des pour un peu gagner du temps. J'ai reçu le cours de la protection de l'environnement. Et j'ai reçu aussi le cours des droits de l'environnement. Parce que chez nous, en environnement, nous sommes garantis par les droits de l'environnement. Et la protection de l'environnement est là pour préserver les générations futures. C'est-à-dire, chez nous, en environnement, nous protégeons la biodiversité pour la génération présente et pour promouvoir aux générations futures. Mais je m'étonne si il y a une arrêté qui est signée. D'ailleurs, celui qui est le ministre national de l'environnement, il n'est pas un environnementaliste. Et je demande aussi aux autorités congolaises qu'on doit mettre les personnes à la place qu'il faut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une personne comme ça qui n'est pas même un environnementaliste d'aller le mettre comme coordonnateur de l'environnement.
Bon, la question... Dans un territoire. Non, quelle est la question? On peut ne pas être environnementaliste, mais on s'entoure des experts et des gens qui vont vous aider à bien travailler.
Si le plan administratif, ce n'est pas un problème, mais si le plan technique, voilà ce qui se pose un problème. Parce que les espèces protégées ont droit à la vie. Ce sont les espèces protégées normalement sur le droit congolais. On ne peut pas les battre en libération comme ça. On ne peut pas signer aussi une arrêté pour que ces animaux aussi soient bâtis. Maintenant, quel serait le rôle de l'environnement? Parce
bien.
Que nous protégeons l'environnement.
D'accord.
Notre but est de protéger l'environnement pour la génération présente,
et future.
Pour prévenir et puis. Maintenant, quand nous allons laisser aller, parce que moi aussi, on peut donner l'opportunité là à tous les Congolais d'aller acheter aller s'acquitter au niveau de l'État. Et à ce moment-là, ils vont descendre au niveau de la forêt pour battre n'importe quoi, même au niveau des parcs. C'est comme ça, nous, c'est à nous au Congo, nous n'allons pas. Il n'y a pas aussi des espèces protégées, il n'y a pas aussi des places protégées. C'est comme ça, nous allons laisser aller même au parc, et on va dire aux conservateurs, on va dire aux éco-gardes d'abandonner aussi ces parcs-là, et les gens vont aller faire n'importe quoi. Vraiment, je m'étonne, parce que les autorités
Merci, Albert Kotolo. On va donner la parole à Batoka ou à Batoka de Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur Dédé Daniel.
Monsieur Batoka, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, il y avait ceci. Moi, je suis de l'équipe de santé. J'avais une préoccupation là, première étape de l'émission. Alors,
c'est déjà passé. Oui. Maintenant, c'est plus. C'est sans objet. Oui. Merci d'avoir appelé. On va donner la parole au professeur Amundala Drazo. Professeur, votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit?
Voilà. Vous avez vous-même suivi les réactions qui fusent de toutes parts pour essayer de montrer que cet arrêté est tout simplement à abroger parce qu'il n'a pas son sens d'être, il n'a pas pris en compte les actions de toutes les parties prenantes. En tout cas, les avis de toutes les parties prenantes n'ont pas été pris en compte. Moi, en tant que chercheur, parce que si ces animaux-là, si ces espèces ont été classées sur la liste en annexe 1 de la CITES, ça signifie tout simplement que ces animaux sont menacés d'extinction. Et si aujourd'hui, on doit acheter les permis d'abattage et qu'on doit véritablement se mettre à battre ces espèces-là, donc demain, on n'aura plus d'éléphants. Et au jour d'aujourd'hui, le nombre d'éléphants, par exemple, parce que quand on dit qu'il faut 2 500 $ ou 2 800 $, ben, c'est difficile à comprendre, parce que ça, la valeur économique, écologique, etc., de ces espèces-là, c'est énorme. On ne peut pas égaler, ça c'est vraiment du bagage. À mon avis, ce n'est pas vraiment intéressant, c'est que l'ancien ministre, le ministre honoraire, avait pris comme arrêté. Et donc, je suis très heureux d'apprendre que l'arrêté est sous étude au jour d'aujourd'hui. Et donc, je suis vraiment convaincu qu'après l'analyse qu'on aura faite au niveau de la vice-primature et qu'on arrivera tout simplement à abroger cet arrêté. Et ça aidera énormément les gens parce qu'aujourd'hui, quelqu'un a dit ici, c'est les développements durables. On tient compte de la génération présente, mais également de la génération future. Et nous avons tout ici chez nous, c'est seulement question de bien organiser les choses. On n'aura pas besoin d'abattre les espèces pour gagner de l'argent. Parce qu'au-delà de l'argent, on peut avoir des millions. Est-ce que ces millions-là ont la possibilité de nous donner les services écosystémiques dont nous tirons de toutes ces espèces? C'est pas possible. Et donc, on ne peut pas encourager ces gens à arrêter tout simplement parce qu'on veut enfuir la caisse de l'État. Et il y a plusieurs manières d'enfuir la caisse de l'État. Ce n'est pas tout simplement en abattant les espèces. Surtout que nous-mêmes avons déclaré protégés. Ce n'est pas possible. Voilà. Et donc même les autres espèces, j'ai discuté dernièrement avec des étudiants sur les mouches. Les mouches que vous voyez ici, le travail que les mouches réalisent, c'est incroyable. Nous aider à enlever toutes les matières fécales, toutes les matières qui se décomposent autour de nous. Ce sont les mouches là qui décomposent toutes ces matières. Et donc, toutes les espèces ont leur rôle. Mais maintenant, si on doit considérer les espèces qui sont totalement protégées tout simplement parce que leur nombre est en train de décroître. Et si aujourd'hui, on doit payer des taxes, etc., pour les abattre, je crois que c'est totalement inacceptable.
Et ensuite, il y a des éco-gardes beaucoup qui ont perdu leur vie en voulant protéger ces espèces.
Il n'y a pas que il y a des chercheurs qui sont morts pendant qu'ils sont sur le terrain pour faire les études, les éco-gardes, etc., en vue de la protection, en vue de la connaissance de cette biodiversité. Et du coup, quelqu'un va se réveiller pour prendre ce type d'arrêté. Je pense que c'est vraiment cracher sur les efforts de tout le monde et toutes les autres parties prenantes. Tout simplement parce que les autres n'ont pas les pouvoirs. Je crois que c'est vraiment malheureux si on doit humilier les pays comme ça. Donc, nous sommes vraiment contre et totalement contre cet arrêté-là. Et parce que ça nous met d'abord, ça nous remet plusieurs décennies en arrière, compte tenu de tous les engagements que les pays ont pris sur le plan international, régional et même local, pour ne considérer que le bien de sa population, je crois que cette décision n'est pas vraiment soutenue, elle est tout simplement à abroger.
Bien, merci professeur Amunda Ladrazo, expert en faune sauvage. Vous intervenez depuis l'université de Kisangani. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, à la prochaine.
État d'espèces protégées en RDC. Maître Félix Credo, vous, à un moment donné, vous avez voulu intenter un procès contre le gouvernement, mais déjà, lorsque la vice-ministre, la vice-premier ministre vous dit qu'elle est en train d'examiner et que, voilà, très bientôt elle pourra se prononcer là-dessus, je pense que votre démarche n'a plus son sens.
Non, la démarche demeure. En fait, c'est le respect de procédures en tant que telles. Nous pensons que faut donner beaucoup de crédit à l'approche de Madame la vice-première ministre parce que elle dit qu'elle a écouté les différentes parties prenantes et qu'elle va se prononcer. Mais cela n'exclut pas que nous demeurions vraiment regardants par rapport à cela. Pourquoi est-ce que nous insistons en fait sur sur cette annulation à la fois soit par voie administrative ou par voie judiciaire? C'est qu'en fait ces espèces ont été totalement classées comme protégées de manière totale.
Et les éléphants, les okapis, les gorilles.
Voilà. Et personne ne nous a obligés. C'est la RDC elle-même qui a présenté au niveau de la Convention CITES ce besoin-là et dont nous sommes liés. Et en tant que tel, nous devons suivre les engagements. Parce qu'en fait, en présentant la situation au niveau international, qui est-ce que nous serons aujourd'hui? Alors, nous attendons la réaction que nous souhaitons vraiment très positive de son Excellence Madame la Vice-Première Ministre. Mais dans l'entretemps, notre position de saisir les instances administratives pour obtenir l'annulation par voie judiciaire n'est pas encore mise de côté. C'est-à-dire nous suivons la procédure, nous attendons la réaction et nous sommes très confiants que après examen et au regard des différents arguments qui se présente, notamment sur le plan technique et sur le plan juridique, que la vice-première ministre va annuler cet arrêté et les choses vont revenir au pristine état pour assurer qu'effectivement les efforts consentis pour la conservation de la biodiversité soient maintenus et valorisés dans notre pays.
Et pourquoi doit-on protéger ces espèces?
En fait, la première raison, c'est que c'est des espèces qui sont en voie de disparition. Aujourd'hui, en fait, nous sommes contre. Nous avons aussi besoin que nos enfants voient, par exemple, des okapis.
Des okapis, il y en a combien aujourd'hui?
Alors, c'est un besoin technique. Il faudrait revenir auprès de l'agence des parcs, l'ICCN, pour assurer, pour faire un état des lieux de tout ce qu'il y a comme ressources. Nous ne pouvons pas nous hasarder de les dire. Mais seulement, on les classe parce qu'il y a une certaine diminution. C'est comme ça, on les appelle des espèces en voie de disparition. Faut les protéger jusqu'à atteindre un certain niveau. Et lorsque l'État constate que le niveau de reproduction atteint un certain niveau, l'État peut présenter au niveau de la Convention la possibilité de libéraliser ces abattages. Mais aujourd'hui, en fait, c'est des espèces qui sont en voie de disparition. Et l'État se prononcer pour les préserver, pour les générations présentes, mais pour les générations aussi futures. Non seulement pour des besoins écologiques et environnementalistes, mais aussi pour des besoins d'ordre d'écotourisme, pour des raisons d'ordre financier. On ne peut pas seulement renflouer les caisses de l'État en octroyant des permis d'abattage de ces espèces. On peut aussi, en sécurisant les aires protégées, en organisant l'écotourisme, assurer qu'effectivement les caisses de l'État tire de manière assez formée, de manière assez propre, des moyens pour permettre à l'État de remplir ses obligations.
Parce que l'écotourisme, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de touristes qui sont intéressés. Parce que nous avons en RDC les groupes
de touristes qui veulent voir, mais il y a aussi beaucoup de chercheurs. Et dans les cadres même de la protection de la biodiversité, il y a des mécanismes, par exemple, d'accès à certaines ressources génétiques qui sont issues soit de ressources animales ou végétales. Il y a des recherches dans le cadre de tout ce qu'il y a comme aspect cosmétique, pharmaceutique, ainsi de suite. On ne peut les retrouver que dans des aires protégées, par exemple. Alors, si aujourd'hui, nous donnons accès à l'abattage de manière systématique et à des faibles coûts des espèces, nous risquons d'amoindrir les opportunités que la RDC a pour valoriser ses ressources, mais aussi pour tirer profit. C'est comme ça que nous pensons qu'il est vraiment de bonne loi que les autorités pensent annuler cet acte-là, permettre à ce que tous les efforts qui sont consentis dans les secteurs de la biodiversité continuent leur cours normal.
Voilà, donc vous attendez l'annulation pure et simple de cela. On va accueillir Daniel de Kisangani. Bonjour.
Bonjour, Radio Kisi. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Quelle est votre question? Quelle est votre question, Daniel?
Oui, moi, je voudrais dire ceci. La RDC, les autorités de la RDC sont pressées. La RDC est pressée à prendre une telle mesure parce que lorsque nous regardons, la RDC n'a pas encore des outils, n'a pas encore des matériels pour construire ou avoir aussi pour exploiter ces ressources minérales ou les forêts. Si aujourd'hui les personnes qui sont censées à construire ou à protéger, à utiliser, à exploiter ces minérales, ils ont des outils. Aujourd'hui, lorsqu'on interdit cette activité, alors moi ma question c'est de savoir quelles sont les motivations de la RDC à prendre une telle décision. Merci.
Bien. Quelles sont les motivations, maître?
Oui, en fait, merci Daniel. Nous ne pouvons pas justifier les motivations, d'autant plus que dans les textes de l'arrêté...
Dans l'énoncé, on n'a pas dit ça.
Que voilà, il y a l'urgence et la nécessité. En fait, ce qu'il y a ici, c'est que l'on ne s'en tient pas à la personne du ministre, mais plutôt à l'acte, parce que c'est l'acte qui engage l'État. Et l'acte en tant que tel ne donne pas de motivation assez profonde. Alors que si vous lisez, par exemple, l'arrêté de 2006, il est dit clairement que pour des raisons d'ordre de salaire, ces recherches permettent soit de développer des mécanismes de protection, de sécurisation des aires protégées, mais aussi de protection des espèces. On peut permettre à ce qu'il y ait abattage, mais à des conditions strictement définies par la loi, notamment par la loi sur la chasse, qui est de 1982, mais aussi par la loi sur la conservation de la nature, dont les mesures d'application
sont... Et en plus, pour des raisons scientifiques, on ne va pas abattre tout le temps.
On ne va pas abattre tout le temps, et puis c'est l'autorité qui donne, et ce aussi après avis de l'organe technique, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement en sollicitant que vous avez, mais avant d'avoir ces permis-là d'abattage pour des raisons d'ordre scientifique, il faut qu'il y ait un avis scientifique de l'autorité scientifique qui est prévu par la loi.
Voilà, il faut qu'il y ait un avis. Vous attendez tout simplement l'annulation de cet arrêté.
Nous attendons l'annulation de cet arrêté parce que l'arrêté crée beaucoup de confusion.
Oui.
Comme nous l'avons dit, à la fois sur le plan techniquement juridique, mais aussi sur le plan administratif. Parce que si vous lisez l'arrêté, il sort clairement que les textes donnent la compétence à la direction de conservation de la nature du ministère d'analyser, de permettre à ce qu'on ait accès au permis. Alors que bien avant, il y a déjà un autre arrêté qui a précédé celui-ci, pris par le ministre de l'Environnement toujours, qui a transféré cette compétence-là à un organe de gestion, conformément à la loi relative à la conservation. Et donc aujourd'hui, l'organe de gestion est basé à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, alors que la direction de conservation est plutôt autorité scientifique pour émettre des avis seulement.
Oui. Bien, Maître Félix Credo Lila Kako, président du conseil d'administration de l'ONG Juriste pour l'environnement au Congo, merci et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.